journal des auditeurs avec Stéphanie Hartmann sur Africa numéro 1. Africa.
Bienvenue dans votre émission, le journal des auditeurs. La parole est à vous pendant 30 minutes sur la radio africaine. Je suis heureuse de vous retrouver. Merci beaucoup à Nadir Djennad d'avoir assuré l'intérim avec brio. Aujourd'hui, lundi 20 août, dans le JDA, nous parlons de la disparition de Kofi Annan. Depuis samedi, les déclarations se multiplient pour rendre hommage au diplomate ghanéen, prix Nobel de la paix en 2001. Une paix qu'il n'a cessé de défendre avec plus ou moins de succès, même après son départ à la tête de l'ONU. C'était en 2006. Alors que retiendrez-vous de l'action de Kofi Annan à la tête de l'ONU? Quel héritage laisse-t-il sur la scène internationale? Pour en parler, nous serons en ligne avec Alioune Tine. Il est expert des Nations Unies sur la question des droits humains au Mali. Pour nous donner votre avis sur le sujet, posez des questions à notre invité. Appelez-nous maintenant au 01 55 07 58 00. Depuis la France et depuis partout ailleurs dans le monde, composez le 00 33 1 55 07 58 00. Mais avant de s'intéresser à notre sujet du jour, on écoute vos messages laissés sur le répondeur d'Africa numéro 1.
Le JDA, c'est sur Africa numéro 1.
Oui, allô, bonjour Africa numéro 1. Je demande l'élection qui est passée au Mali. Comment les observateurs internationaux qui sont partis observer les élections au Mali, qui sont restés à Bamako, qui ne sont même pas allés au nord. Aujourd'hui, l'Union européenne, les François Hollande, Macron, le président africain qui sort féliciter le président Ibrahim Boubacar qui a perdu les élections. J'ai dit, vous avez vu samedi les peuples maliens qui sont sortis dans les rues pour dire qu'ils ne sont pas votés pour Ibrahim Boubacar Keïta. Ibrahim Boubacar Keïta, il ne sera pas le président des Maliens. C'est les minorités qui ont voté pour lui. Les majorités, c'est pour les Soumaïla. On ne va jamais laisser Ibrahim Boubacar Keïta puisse nous diriger dans 5 ans encore. Les peuples maliens, ils ont leur destin en main. Ils vont sortir, ils vont empêcher Ibrahim Boubacar Keïta qui va nous diriger. Il y a plein de Maliens qui sont aujourd'hui en train de renoncer les nationalités maliennes. Que Dieu bénisse Mali et l'Afrique. Au revoir.
Bonjour. Il était une fois, en 2018, la justice donnait des leçons nouvelles au monde entier et aux populations africaines. En effet, en 2018, la justice de la haie décide de libérer M. Jean-Pierre Bemba. Oui, vraiment, c'est une grande leçon. Un monsieur qui a passé 10 ans, je crois, 10 ans en prison à la haie. Donc, il sort, maintenant il sort de prison. Donc finalement, M. Bemba, qui aurait participé à des guerres et qui avait même participé à la guerre en RDC, en Est, là-bas, à l'Est, où il a combattu. M. Kabila, où il a formé la rébellion, il a été vice-président de ce pays, donc qui a été arrêté après. Il revient, soit pour prendre le pouvoir, avec la complicité de qui? Bonne interrogation.
Bonjour, frères auditeurs, auditrices de la radio de Keluka, je suis Mademoiselle Denise Yakazamba, je suis centrafricaine. Je m'adresse aujourd'hui à TV Africa Media pour leur dire ceci. Avant d'aller faire quelque chose chez le voisin, balaye d'abord ta porte avant d'aller balayer celle de ton voisin. Le président Paul Biya a fait combien d'années au pouvoir? Donc, j'aimerais bien que l'Africa TV, Africa Media puisse commencer d'abord à parler de cet pouvoir qui est resté des années sans changement avant d'aller parler de la haine entre la France et la Centrafrique. Je suis désolée pour votre propagande par rapport à la situation de la RCA.
Hommage à Aretha Franklin. Moi, j'ai plus envie de te faire des dédicaces, car ce que ton immense œuvre va générer et produira encore dans ce monde musical, dans le monde musical, comme dans le milieu féministe, continuera longtemps sur cette terre. Et pourtant, ce monument, cette digue, cette très belle femme forte que tu étais, est bien partie vers l'au-delà. Cette éternité que tu as tellement recherchée dans les églises. Alors, pour te rendre hommage, je dirais, repose en paix, respect, amen, Aurore.
Bonjour les Africains, bonjour Africa numéro 1. J'aimerais dire que M. Kofi Annan, à mon avis, il n'a pas encouragé, n'a pas du tout encouragé Laurent Gbagbo quand la rébellion a éclaté. Ils se sont retrouvés dans la salle ici à Makoussi, où se trouvaient Dramane Ouattara, Bédié, Les Soro, Kofi Annan, c'est lui qui a validé la rébellion de la Côte d'Ivoire. Donc moi, Kofi Annan, il n'a pas supporté la Côte d'Ivoire, et au contraire, il a validé la rébellion de la Côte d'Ivoire. Merci, au revoir.
Prenez la parole dans le JDA sur Africa numéro 1.
Africa.
Merci à tous pour vos messages. Vous pouvez intervenir désormais en direct dans le journal des auditeurs en nous appelant au 00 33 1 55 07 58 00. Aujourd'hui donc dans le JDA, la disparition de Kofi Annan, secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de 1997 à 2006. Kofi Annan aura fait l'ensemble de sa carrière dans les arcanes onusiens, fervent défenseur de la paix à travers son prix Nobel, mais aussi la fondation Les Elders. Il avait, dès 2001, mis en garde contre la montée des identitaires. Cependant, ses mandats à l'ONU ont été marqués par une certaine impuissance et l'incapacité à empêcher l'intervention américaine, notamment en Irak, à laquelle il s'était opposé. Alors que retiendrez-vous de l'action de Kofi Annan à la tête de l'Organisation des Nations Unies? Quel héritage laisse-t-il sur la scène internationale? Pour nous donner votre avis sur le sujet, posez des questions à notre invité. Appelez-nous maintenant au 00 33 1 55 07 58 00. Et pour en parler justement, nous recevons par téléphone Alioune, expert de l'ONU sur la question des droits humains au Mali. Alioune, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous par téléphone. Tout d'abord, première question, quel souvenir gardez-vous, Alioune, de Kofi Annan?
Kofi Annan, je pense que par tout simplement sa mise en scène de soi, son élégance, sa capacité extraordinaire à écouter et également à intervenir dans les conflits les plus complexes, et sa capacité à rechercher tout le temps le consensus, hein, c'est pratiquement une force intérieure, c'est lui le consensus. Et également sa sensibilité toute particulière en matière de droits humains, de droits de la femme, sur la question des inégalités, ses différentes actions pratiquement aussi sur les théâtres d'opération en Afrique. Vous avez évoqué le Rwanda, il n'était pas secrétaire général des Nations Unies, mais on peut parler de ce qui s'est passé en Éthiopie, ce qui s'est passé également entre le Nigeria et le Cameroun, Bakassi également. On peut toujours citer aussi en Afrique la crise du Kenya, la présidentielle de 2008. Donc, et d'où est né d'ailleurs ce qu'on appelle la doctrine Kofi Annan. Ça veut dire que quand effectivement les États n'ont pas la capacité d'intervenir pour protéger les populations, à partir de ce moment-là, la communauté internationale doit prendre ses responsabilités et intervenir. Donc c'est un peu la responsabilité de protéger. Ça aussi, ça faisait partie de la doctrine Kofi Annan. Voilà, c'est un homme simple. C'est un diplomate de carrière. Je dirais que c'est, comme dirait Libération, le dernier des diplomates au sens classique, ça veut dire racé, poli, avec un sens de l'écoute, vraiment dans un monde, effectivement, il faut bien le reconnaître, où le multipolaire, dans un monde multipolaire, alors qu'aujourd'hui,
multilatéralisme.
Le multilatéralisme, justement, est dans une crise extrêmement profonde avec la montée, justement, des identités nationales, du populisme. Et tout cela, effectivement, font qu'aujourd'hui, il est extrêmement difficile d'avoir une Nation Unie forte comme elle l'était, avec une autorité aussi forte comme celle de Kofi Annan. Aujourd'hui, on le sent, que ce soit la question de l'Irak, des réfugiés, et même sur les théâtres d'opération comme le Mali et ailleurs, vraiment, on ne sent pas les Nations Unies aussi fortes et aussi capable effectivement d'intervenir et de régler le problème comme avant.
Alors justement, hein, vous avez évoqué cette doctrine Kofi Annan. En 2001, au lendemain du 11 septembre, il s'interrogeait déjà sur l'existence encore de valeurs universelles hein, et s'inquiéter, hein, vous l'avez dit, de la montée des populismes, des particularismes identitaires. Est-ce qu'on peut dire qu'il a été visionnaire sur les bouleversements que connaît le monde aujourd'hui ?
Absolument. Absolument. Il a été visionnaire et il a également vécu cette espèce de crise du multilatéralisme avec sa dernière intervention en Syrie, vous l'avez vu, où il a été obligé de jeter l'éponge aussi. Donc le monde a beaucoup changé après Kofi Annan. Qui, très sincèrement, aujourd'hui, je pense que je n'ai pas vu quelqu'un avoir, si vous voulez, un hommage et une telle humanité sur le plan national, africain, international que Kofi Annan, à part quelqu'un comme Nelson Mandela. Je pense que c'est quelqu'un qui a particulièrement donné un relief tout à fait particulier au leadership africain dans le monde.
Merci Aliountine. Restez à l'écoute si vous voulez bien Aliountine. On va écouter quelques auditeurs hein, qui nous appellent au 01 55 07 58 00 hein, pour réagir à cette disparition de Kofi Annan. On commence avec Alexandre. Alexandre, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans le journal des auditeurs. Alexandre, vous êtes engagé, je crois, hein, vous êtes un militant aussi. Que gardez-vous hein, du combat, des combats de Kofi Annan ?
Je ne retiendrai que du positif et surtout un grand exemple pour nos actions, nous, acteurs de la société civile. Un exemple par son pragmatisme, sa vision aussi, sa force de conviction et d'action qu'il a poursuivi. D'ailleurs, au-delà des Nations Unies, lorsqu'il a quitté son second mandat. Et aujourd'hui, son absence ne doit pas être vu comme quelque chose de complètement absent dans notre esprit, mais son absence doit engendrer une omniprésence dans notre action. C'est-à-dire que chaque jour, maintenant, c'est à nous de poursuivre ce qu'il a fait. Ça a été un grand homme, un grand acteur de la paix et du multilatéralisme qui, aujourd'hui, malheureusement, est vraiment en danger. Et on doit avoir des clés de lecture en s'inspirant de ce qu'il a pu faire au cours de toutes ces années d'engagement et qui doivent être un exemple pour tous et qui doivent aussi nous forcer à nous unir dans un esprit commun et essayer, avec toute la modestie qui peut être celle de notre action, de faire, de poursuivre ce qu'il a fait.
Merci beaucoup, Alexandre, de votre contribution à ce journal des auditeurs. Aliountine, je reviens vers vous. Alexandre vient de le dire, hein, Kofi Annan était un défenseur, et vous l'avez dit aussi, du multilatéralisme, défenseur de l'universalisme et du droit d'ingérence aussi. Alors qu'aujourd'hui, hein, la démocratie ne semble plus être à la mode, hein, c'est ce qu'on entend aussi, et les organisations hein, s'inquiètent hein, du recul des droits humains dans le monde. Est-ce qu'il est essentiel aujourd'hui de perpétuer son combat à Aliountine et de déclarer hein, cet universalisme de nouveau ?
Absolument, absolument, parce qu'il faut rappeler aussi que c'est pendant la période de Kofi Annan où vraiment la question de l'impunité a été soulevée avec force. Moi, la première fois que j'ai rencontré Kofi Annan, c'était à Rome, lors de la conférence sur la CPI. La première fois que je lui ai serré la main, Kofi Annan aussi, c'est la conférence mondiale contre le racisme, l'antisémitisme et l'intolérance qui y est associée. Donc, ce qui est essentiel, je pense, c'est cette volonté constante de s'impliquer dans les défis du monde actuel, que ce soit les défis des inégalités, que ce soit les défis de la question surtout aussi du genre. Hein. Ce qu'il a dit sur le développement, qu'on ne peut pas le faire sans effectivement le respect des droits des femmes, et le respect des droits des filles aussi, leur éducation et tout, je pense que c'est essentiel. Les OMD, c'est essentiel, le NEPAD, on l'oublie, mais bon, il s'y est engagé. La question de la drogue, c'est une grande question en Afrique de l'Ouest. Les gens oublient effectivement le rapport de Kofi Annan et Obasanjo pour effectivement avec ce qu'on appelle les seniors, les L2. Donc le rapport qu'il avait fait, qu'il avait soumis pour effectivement essayer d'atténuer ou de mettre un terme à l'ampleur effectivement je ne sais pas tout à fait l'impact du trafic de drogue ici en Afrique de l'Ouest. Donc Kofi Annan, de mon point de vue, c'est carrément, en tant que diplomate, c'est une espèce en voie de disparition. Parce que toutes les valeurs qu'il portait, toutes les fortes convictions concernant l'universalité des droits de l'homme, et disant tout le temps effectivement aux grandes puissances, très important ce qu'il faisait comme recommandation, il dit que la responsabilité des grands États est de servir et non pas de dominer les peuples. Mmh. Aujourd'hui, quand on regarde les théâtres d'opération, depuis effectivement, vous l'avez bien souligné, hein, le 11 septembre, bien sûr, c'est les relations de domination, c'est les rapports de force, c'est les intérêts nationaux qui priment sur autre chose. C'est le développement de plus en plus également des nationalismes, du populisme, qui menace d'ailleurs l'unité de l'Europe de plus en plus. Le populisme, qu'on le voit ou non, avec sa manifestation actuelle aux États-Unis, vraiment provoque des inquiétudes profondes du côté des Américains eux-mêmes, sinon pas effectivement sur le plan international, et la menace du multilatéralisme aujourd'hui n'a jamais été aussi forte depuis quand même plus d'une vingtaine d'années. Hein. Donc tout cela est inquiétant et font effectivement qu'il y a une nécessité absolue pour nous, pour la communauté internationale, de se retourner encore vers l'œuvre de Kofi Annan, de voir ce qu'il y a de plus positif, effectivement, de s'en inspirer. Et je pense que c'est bon que la jeunesse s'inspire de cette action de ce grand homme. Mmh. J'ai eu également aussi l'insigne honneur de participer à l'inauguration du centre Kofi Annan de la paix, où effectivement j'ai participé à l'élaboration des tout petits programmes, des tout premiers programmes à Accra. Ça aussi, c'est l'œuvre de Kofi Annan, de quelqu'un qui s'attache à la construction de la paix partout dans le monde, en Afrique, et partout où effectivement nous avons des difficultés et des défis énormes pour la paix, tout le monde se retourne vers lui et on fait appel à lui. Donc, c'est ça. Moi, je dirais effectivement que c'est le dernier des Mohicans. Ça veut dire, en tant que diplomate, sa conception de la diplomatie, ses convictions très fortes concernant le multilatéralisme et l'universalité des droits de l'homme.
On entend bien dans vos propos, Alioune, la nécessité de garder vivant, hein, justement, hein, vivantes les convictions de Kofi Annan. On se redirige du côté du Standard pour écouter un auditeur fidèle, Diomo de Beng. Bonjour.
Oui, bonjour Stéphanie, bon retour à toi surtout. Hein.
Merci Diomo de Beng.
Oui, et je dis aussi bonjour à votre invité.
Alioune, il vous écoute.
Je vais commencer par rendre d'abord un vibrant hommage à ce grand monsieur, surtout à son pays qui est le Ghana, à sa famille biologique, à l'Afrique, et à tout le monde entier dont il a été le secrétaire général de l'ONU. Moi, je dirais que le monde perd une figure très emblématique, un diplomate aguerri, un diplomate convaincu, quelqu'un qui savait là où placer ses mots. Moi, je dirais simplement, Kofi Annan, tu es parti. Je pense que dans les 2 ans ou les 5 ans qui suivront ton départ, nous aurons quelqu'un comme toi. Parce que Kofi Annan avait une vision de la vie. Vous savez, moi, je retiens toujours ces conflits. C'est vrai qu'à un moment donné, le conflit Irak-Amérique, ça pouvait pas échapper. Ça a été quand même une petite faiblesse de Kofi Annan. Mais en ce qui concerne le reste, ce diplomate restera aggravé dans la mémoire de tout le monde, y compris Diomo de Beng, y compris la Côte d'Ivoire. Je ne dis pas parce que Kofi Annan a validé, parce que j'ai écouté tout à l'heure dans...
C'est ce que disait un auditeur sur le répondeur.
Un auditeur qui a dit qu'il a validé la rébellion. Non, Kofi Annan, moi je l'appellerais la voix des sans-voix. Vous savez, quand un peuple est opprimé, quand un peuple ne sait pas vers qui se tourner, on se tourne vers un homme, vu qu'on ne connaît pas on ne sait pas où Dieu il vit. On se tourne vers un homme. Et cet homme a été un moment, Kofi Annan, pour la Côte d'Ivoire, pour le monde entier, pour les Arabes, pour les chrétiens, pour les musulmans. Je dirais simplement, franchement, l'Afrique vient de perdre un de ses grands pionniers. Et je dirais pour terminer, si c'était possible que nous nous mettons tous ensemble pour faire une veillée de prière pour ce monsieur, pour que son âme repose en paix, parce qu'il a donné sens au dialogue, il a donné sens à la paix, il a donné sens au droit de vivre, il a donné sens à beaucoup de choses. Et pour terminer, je dirais, Kofi Annan va et repose en paix. Merci. Repose en paix, le monde te pleure, y compris Diomo Debeng.
Merci Diomo Debeng de votre intervention. Hein. D'ailleurs, hein, le Ghana a décrété une semaine de deuil national pour rendre hommage à son illustre fils. On va dans quelques instants écouter Tierno et Aiko Mopongi qui nous parlera de l'action de Kofi Annan en République démocratique du Congo. Je rappelle le numéro si vous souhaitez intervenir, 01 55 07 58 00 depuis la France et le 00 33 1 55 07 58 00 depuis partout ailleurs. Dans le monde, justement, un message qui nous vient du Cameroun, Junior Gassissou Noyom sur Facebook. Il nous dit vraiment triste la disparition de cet illustre et digne fils de l'Afrique dans un contexte où le continent manque de plus en plus de modèles. On aura l'occasion d'en parler avec notre invité Alioune-Tine. Avant cela, comme promis, on écoute Tierno depuis Conakry. Tierno, bonjour.
Bonjour Stéphanie et bonjour à l'ensemble de vos auditeurs.
Bonjour Tierno, bienvenue dans le journal des auditeurs. Alors, vu de Conakry, que retiendrez-vous de l'action de Kofi Annan?
Bon, avant de commencer, je vais présenter mes sincères condoléances à l'ensemble du continent et le monde entier. Kofi Annan a été vraiment un grand homme qui a marqué l'histoire de tout un continent par son engagement, par son droit, parce que c'est un homme de paix. Il a pu contribuer à beaucoup de choses, que ce soit sur le plan mondial ou africain. Il a été vraiment un homme du terrain. Vous voyez, son carrière en tant que diplomate, hein, il a pu traverser tous les rouages au sein des Nations Unies jusqu'à ce qu'il est le premier secrétaire général des Nations Unies. Première fois dans l'histoire qu'un subsaharien s'occupe de ce poste. Vous voyez, c'était un jeune vraiment engagé jusqu'à il est devenu premier secrétaire général des Nations Unies. Il a beaucoup marqué l'histoire. Moi, je me souviens de son discours lorsqu'il a dit aux États-Unis et les Grande-Bretagne de ne pas envahir l'Irak sans les Nations Unies. Vous voyez ce qui a causé, c'est que c'est un diplomate averti. Dès qu'il parle quelque chose, il faut éviter. Mais le jour-là, les États-Unis et l'Angleterre n'ont pas pu prendre de temps pour se réfléchir et pour prendre le conseil de ce grand homme qui a marqué l'histoire. Tout récemment aussi, en 2012, lorsqu'il a été mandaté pour aller rencontrer le président syrien, le président syrien pour comme médiatisation au compte de, je ne sais pas si c'est les organisations du monde arabe, pour rappeler à l'ordre le président syrien. Mais il a vu que le terrain, vraiment, ce n'était pas du tout possible parce que personne ne l'écoutait. Il n'y avait pas vraiment un soutien qu'il fallait pour que la guerre soit vraiment la guerre en Syrie soit stoppée en bon terme. Il a pu démissionner, ça aussi, c'est du courage parce que depuis qu'il a démissionné, beaucoup de diplomates ont compris là où Kofi Annan a échoué. Ce n'était pas la peine d'aller tarder là-dessus. Jusqu'à présent, les pauvres citoyens sont en train d'être exécutés en Syrie. C'est quelque chose qui est très dangereux. C'est un homme, sans parler, il a été aussi prix Nobel de la paix, parce que ça aussi, c'est quelque chose à saluer. C'est par son engagement pour la paix dans le monde qu'il a pu obtenir ce prix. Vraiment, aujourd'hui, à Conakry, depuis son décès, partout, on parle que de Kofi Annan. Des gens qui le disaient comme idole. La plus grande université privée de Guinée porte son nom. Et là où il y a eu plusieurs de, comment dirais-je, des jeunes qui ont été formés dans cette université, tous ces jeunes ont pris Kofi comme un idole. Vous voyez, c'est quelque chose vraiment qui a vraiment fait. Parce que beaucoup de jeunes pleurent Kofi aujourd'hui parce que c'était leur idole, mais c'est un survivant. La apporter ce qu'il pouvait au monde entier. Il n'a pas oublié aussi son continent. un petit-fils qui a été né à Kumasi, il a fait son carrière jusqu'à au niveau des Nations Unies. C'est quelque chose qui a vraiment va encourager la nouvelle génération parce que l'impossible n'existe pas. Parce que si on est né dans un petit village, grandir jusqu'à aller s'occuper de tel poste, c'est l'engagement et le sérieux.
Ça doit être un modèle, vous nous dites, Thierno, hein, pour le continent africain, on l'entend bien, et pour les jeunes africains, justement, merci beaucoup, hein, Thierno, de votre appel depuis Conakry. Dans quelques instants, on va revenir vers notre invité Alioune. Avant cela, comme promis, on écoute Aiko Mopongi, bonjour.
Bonjour Madame Hartmann.
Bonjour Aiko. Vous voulez revenir sur l'action de Kofi Annan en République démocratique du Congo. C'est au moment de la signature des accords de Salt Lake City.
De Salt Lake City, parce que grâce à l'initiative de M. Kofi Annan, qui est le belligérant congolais comme disons chez Bemba et MLC comme SCD Goma, ils se sont mis ensemble en Afrique du Sud pour signer vraiment les accords de Salt Lake City. Pour mettre le Congo en marche, parce qu'il y avait la guerre, il y avait la rébellion, il y avait beaucoup de rebelles au Congo. Mais grâce à son initiative de Kofi Annan, que le Congo a été mis en marche en 2001 pour organiser des élections avec tous les belligérants. C'est pour cela, nous, le peuple congolais, nous plairons vraiment un fils d'Afrique, un fils du monde, celui vraiment qui est vraiment à la tête du dialogue inter-congolais en Salt Lake City. Grâce à lui, qu'il y avait la paix. Si ce n'était pas l'initiative de Kofi Annan, jusqu'aujourd'hui, il pouvait avoir toujours la guerre à la République démocratique du Congo. Mais grâce à son initiative, il y avait la paix. C'est pour cela, peuple congolais, nous plairons Kofi Annan, nous plairons un fils de l'Afrique. Nous avons perdu un monument, la sagesse de l'Afrique qui est partie. C'est pour cela, nous sommes vraiment, vraiment, vraiment merci pour la mort de Kofi Annan, parce que c'est un grand pour le Congo, c'est un grand pour le peuple congolais, c'est un grand vraiment pour l'Afrique et pour le monde. Tout ce qu'il a fait pour l'Afrique et pour les Congolais, nous sommes vraiment, vraiment, vraiment touchés pour sa mort, grâce à lui, que le Congo est vraiment, le Congo prend l'élan de marcher depuis 2001 jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes vraiment, vraiment contents pour que Kofi Annan nous quitte vraiment, c'est vraiment déplorable.
Les Congolais doivent se remémorer leur action, hein, vous nous dites, Aiko Mopongi, hein, tout d'abord suite aux accords de Sun City, bien sûr, en Afrique du Sud. Merci beaucoup, Aiko Mopongi, de votre témoignage. Alioune Tine, je reviens vers vous concernant son action, l'action de Kofi Annan à l'Organisation des Nations Unies. Est-ce que son élection en secrétariat général de l'ONU a permis à l'Afrique de peser un peu plus, davantage au sein de l'institution?
Oui, absolument. Absolument. Parce que Kofi Annan, il ne faut pas le réduire sa figure à simplement le continent africain. Mais en même temps, c'est qui lui confère cette espèce d'autorité très forte pour être une voix entendue par tous. Et vraiment, pour l'Afrique a beaucoup profité dans les différents conflits qu'on a connus en Afrique, un peu partout, de l'aide et de la participation concrète et des fois du rôle concret de Kofi Annan. Moi, je reviens sur la Côte d'Ivoire, hein, qu'on le veuille ou non, la Côte d'Ivoire est peut-être un des théâtres d'action où nous pouvons dire quand même que l'action des Nations Unies a été positive. Hein. Nous avons été là-bas sur place à plusieurs reprises, nous avons vu ce qui s'est fait. Et j'aimerais également atténuer un tout petit peu aussi ses responsabilités par rapport autant à la guerre en Irak, dont il dit que c'était une guerre illégale.
Est-ce qu'il avait vraiment... Kofi Annan avait-il vraiment les moyens d'empêcher cette intervention américaine?
Il n'avait pas les moyens d'empêcher ce qui s'est passé en Irak. De la même manière également, ce qui s'est passé aussi au Rwanda, hein, parce qu'effectivement, c'est des choses qu'on évoque souvent. L'ONU n'a pas été d'accord. La guerre en Irak a été menée contre l'avis du Conseil de sécurité des Nations Unies, surtout avec la voix forte de la France qu'on a entendue à l'époque. Et également, c'est ce qui s'est passé avec l'Irak, vraiment pour les gens qui connaissent, c'est un mensonge qui a été fabriqué de toutes pièces de façon délibérée pour aller attaquer l'Irak. On a vu les conséquences. De la même manière également, on oublie de le dire, mais les accords de Paris sur le changement climatique, les alertes, viennent de Kofi Annan. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut lui reconnaître de très fort. Donc, c'est quelqu'un, effectivement, qui avait énormément de sagesse quand on lit certaines de ses expressions. J'ai l'impression que c'est une espèce d'incarnation de ce que l'humanité avait de meilleur. Écoutez ce qu'il dit. C'est à chacun d'entre nous de cultiver le meilleur de sa nature et de lutter contre le pire. La liberté ne connaît pas de frontières. Il suffit qu'une voix s'élève dans un pays pour redonner courage à ceux qui sont ailleurs, à l'autre bout du monde et qui en ont besoin. Ça, c'est très important. Il est plus que jamais dans l'histoire de l'humanité, nous partageons un destin commun. Nous ne pouvons le maîtriser que si nous y faisons face ensemble. Et c'est pourquoi, mes amis, nous avons les Nations Unies. Voilà, ça c'était sa conception. Ça veut dire le consensus sur le multilatéralisme. Et également le fait effectivement de reconnaître la dignité humaine partout dans le monde. Et effectivement d'agir par rapport à pour la reconnaissance de cette dignité. Ça c'est très important. C'est constant également dans tout le comportement de Kofi Annan. Je reviens sur le Rwanda aussi. C'est vrai, effectivement, il était chargé du maintien de la paix à l'époque. Mais à l'époque, les gens, par exemple, aux États-Unis, c'était Bill Clinton qui disait qu'il n'y avait pas de génocide au Rwanda. Donc, les Nations Unies ont fondamentalement échoué en tant qu'institution sur ce qui s'est passé au Rwanda. Il l'a reconnu.
Il a présenté ses excuses, même.
Il a fait son mea culpa à l'époque. C'est vrai, on ne peut pas effectivement tout pardonner aux Nations Unies, mais je pense qu'à partir du Rwanda, il y a des leçons qui ont été prises, des leçons très fortes. Hein. Je pense que le Rwanda fait partie avec ce qui s'est passé également en ex-Yougoslavie et de la décision de créer, par exemple, la CPI pour lutter contre l'impunité et prévenir le génocide et les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. C'est très important. Je pense que son action a été très forte. Et puisque vous parlez du leadership, vraiment, je suis regret de dire aujourd'hui qu'il y a un véritable déficit de leadership. Nous nous sentons véritablement orphelins de gens comme Nelson Mandela, dans le cadre de leur rapport au pouvoir. Nelson Mandela pouvait régner à vie, personne ne trouvait à y redire. Mais il a fait 5 ans, il a réconcilié les Sud-Africains et il est parti. C'est extraordinaire. Mais c'est ça qui nous manque aujourd'hui par rapport à ceux qui s'accrochent au pouvoir envers et contre tout.
J'allais vous demander justement à Liountin si Antonio Guterres avait la carrure pour reprendre ces combats-là universels et pour la démocratie.
Exactement. Moi, sincèrement, je lis tous les jours les interventions d'Antonio Guterres, mais effectivement, on sent en arrière-plan la musique également de Kofi Annan, Frédéric Guterres qui a assisté les réfugiés. Et tous les jours que Dieu fait, son intervention, son discours, sa façon de faire sur le plan diplomatique, vraiment le rapproche beaucoup de Kofi Annan. Ça, il faut le reconnaître. Sa manière même de prévenir les choses, comme sur le Mali. Avant les élections, il est intervenu, il a parlé aux acteurs. Après les élections, il est intervenu, il a parlé aux acteurs. Tout ça, quand même, nous le saluons.
D'accord. Aliountin, restez à l'écoute. On va écouter un dernier auditeur, justement, Émile, qui patiente depuis quelques minutes maintenant. Émile, bonjour.
Bonjour, Stéphanie.
Bonjour, Émile. Vous disiez, Kofi Annan est un grand homme, mais il laisse un goût d'inachevé. Qu'entendez-vous par là?
Oui, mais parce que l'Afrique, c'est quand même 52 États, je crois, ou
54.
54, voilà. Voilà. Mais l'injustice mondiale fait qu'on n'a aucun représentant au Conseil de sécurité de l'ONU. Il n'y a aucun pays. Donc Kofi Annan étant en tête de cette organisation, il n'a jamais tapé les coups de poing sur la table. Faire des dialogues, c'est sympa. Il était un dialogueur, il parlait bien pour apaiser les choses. Mais nous sommes dans un monde où les gens se donnent coup sur coup. Il n'y a pas de pitié. Pour l'Afrique, le monde entier, surtout l'Occident, considère l'Afrique comme leur jardin. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est pour ça qu'on a vu même le génocide du Rwanda. Mais le génocide du Rwanda, les conséquences au Congo, c'est plus de 5 millions de morts. Kofi Annan n'a jamais tapé les poings sur la table. même s'il a parlé, même s'il y a la présence de la MONUSCO au Congo, mais nous avons vu jusqu'à aujourd'hui, la FARDC continue à lutter contre les groupes armés parce que les Occidentaux, les Américains, les firmes américaines, ils ont besoin de minerais qui sont à l'est du Congo et ça continue.
On connaît bien effectivement hein, ce dossier, Émile, hein, de la République démocratique du Congo. Alioune, une réponse rapide peut-être à Émile, effectivement, hein, la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU reste à faire, mais ce n'est pas de la faute de Kofi Annan.
Non, pas du tout, pas du tout. Je pense que ça a été d'ailleurs le mérite de Kofi Annan, c'est d'avoir soulevé ce problème, de soulever la nécessité effectivement pour que l'Afrique ait deux représentants au Conseil de sécurité des Nations Unies, donc pour porter le truc à 24. Je pense que c'est une des réformes, de mon point de vue, les plus révolutionnaires depuis l'existence des Nations Unies en 1945. Mais bon, c'est pas de ta faute, hein. Et puis, les Africains également en portent une responsabilité, ils ne s'entendaient pas. Il y avait effectivement cette querelle entre le Nigeria et bien sûr l'Afrique du Sud. Il y a eu bien sûr beaucoup de bruit, beaucoup de polémiques. Mais bon, finalement, je ne pense pas qu'on puisse faire porter le chapeau ou bien toute la responsabilité à Kofi Annan. Il a tenté au moins. Je pense que ses successeurs peut-être devraient continuer cette proposition qui est une proposition très généreuse, qui est une proposition qui va dans le sens effectivement de mettre un peu d'équilibre dans le multilatéralisme et entre les pays qui sont puissants et les pays africains de façon globale.
Très clair. Merci beaucoup Alioune Tine d'avoir été notre invité. Hein, je rappelle que vous êtes consultant sur les droits de l'homme, notamment au Mali. C'est donc la fin de cette émission. Merci à tous de votre participation. Ruffin, nous disait Kofi Annan n'était qu'un figurant à l'ONU, on n'a pas pu le prendre. Mais le débat continue, hein, notamment sur notre page facebook.com/journal. des auditeurs, mais aussi sur Twitter. Nous avons créé un compte Twitter, @jauditeur. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires. On se donne rendez-vous demain pour une nouvelle édition du Journal des auditeurs, justement comme promis avec Nadir. Nous reviendrons sur la présidentielle au Mali et la stratégie de l'opposition pour contester les résultats. À demain.